Bonjour à tous. Donc, je suis Robin Amadi, le directeur de la RHLM PACA et Corse. Donc, je vais me faire le porte-parole des bailleurs sociaux dans la région et là aujourd'hui principalement dans la métropole. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Passer dans l'autre sens, avant de parler de ce que nous avons fait au cours des mois précédents. Il est à noter que dans la région, les bailleurs sociaux sont propriétaires d'environ 350 000 logements, c'est-à-dire qu'on loge à peu près 800 000 habitants dans la région. Ça représente environ 16% de la population totale, puisqu'en PACA, il y a 5 millions d'habitants. Sur la métropole, on est propriétaire de 170 000 logements, ça représente environ 400 000 habitants sur les 2 millions, donc environ 20%. Donc un habitant de la métropole sur 5 est locataire du parc HLM. Donc ça, c'est pour vous donner des grandeurs, des ordres de grandeur. Et en fait, aujourd'hui, si on essaye de se comparer, puisque les bailleurs sociaux, ce sont avant tout des logeurs. Notre métier, c'est d'accueillir des personnes dans l'habitat social, ensuite de gérer le parc et ensuite de réaliser tout l'entretien, les travaux pour préserver le parc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'activités connexes qui, au fur et à mesure des décennies, viennent modifier le travail des bailleurs sociaux. Donc on a aussi beaucoup de travaux sur de thématiques sur la sécurité, sur... Et on a maintenant un nouveau sujet qui est devant nous, qui est effectivement comment être un partenaire de la mobilité d'une manière générale, même si c'est vrai qu'on a souvent été, dans le cadre des partenariats qu'on a, un partenaire privilégié lorsqu'on est propriétaire de grands ensembles immobiliers. On est des partenaires déjà du monde de la mobilité, mais là, c'est vrai que d'internaliser le carburant, en quelque sorte, internaliser le carburant à domicile, ça va être un nouveau métier pour les bailleurs sociaux. Et comment on est en capacité d'assurer la recharge des véhicules électriques des locataires HLM, parce que, oui, les locataires HLM vont s'équiper de véhicules électriques dans les années qui viennent. Aujourd'hui, on pourrait considérer que le taux d'équipement de véhicules thermiques est à peu près équivalent à ce qui se passe chez les habitants du privé. La seule différence, c'est que le parc de véhicules est en général en moins bon état. Il y a beaucoup moins de véhicules neufs chez les locataires HLM que dans les autres catégories. Mais par contre, il est clair qu'aujourd'hui, et en plus avec les dispositions gouvernementales qui sont en train d'être développées, avec le fameux véhicule électrique à 100 euros par mois, on escompte un nombre d'immatriculations de véhicules électriques dans le parc HLM à peu près équivalent, peut-être un peu moindre dans un premier temps, mais en tout cas, à terme, le taux d'équipement des véhicules électriques dans l'habitat social sera certainement identique aux autres types d'habitat. Donc en fait, un autre sujet qui est important, puisque de mon point de vue, ça a été dit tout à l'heure par une autre personne qui intervenait sur le monde des entreprises, finalement, ça semble être un dossier indissociable de la stratégie bas carbone des bailleurs sociaux, et notamment du photovoltaïque. Alors on couvre un périmètre donc multidépartemental, et c'est vrai que dans le cadre du partenariat qu'on peut avoir d'ailleurs avec Enedis, avec EDF, mais aussi avec l'AVEM qui nous accompagne sur les différents sujets de mobilité électrique, j'ai perdu le fil, voilà, stratégie bas carbone, en certains endroits du territoire, il sera plus difficile qu'à d'autres endroits d'acheminer des quantités énormes d'électricité. Donc autant on nous dit que sur la métropole Aix-Marseille, on devrait pouvoir alimenter sans problème. Mais par contre, ce qui se trouve en bout de ligne, et notamment du côté de Nice, il y aurait peut-être plus de difficultés, soit par RTE ou par d'autres prestataires ou d'autres institutions, à acheminer l'électricité en quantité et en qualité suffisante, puisqu'on voit d'ailleurs que la mobilité électrique, elle est corrélée à la capacité de recharger rapidement le véhicule pour assurer une mobilité aussi satisfaisante que la mobilité thermique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années ? Puisqu'en fait, je dois vous avouer qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont partagés dans leur stratégie mobilité électrique. C'est-à-dire que moi, je les sens plutôt attentistes d'une technologie en devenir. Parce que bien évidemment, à partir du moment où on va déterminer une stratégie d'équipement du parc HLM, que ce soit à l'échelle de la région, à l'échelle du département, à l'échelle de la métropole ou même au niveau national, ça va être une technologie qui va devoir avoir une certaine logique pour qu'on puisse acheminer de manière satisfaisante et de manière équitable l'électricité jusqu'au véhicule de nos locataires. Donc effectivement, aujourd'hui, tout à l'heure, le sujet a été évoqué de l'interopérabilité, de la façon dont les locataires vont pouvoir acheter leur électricité en fonction de la localisation des bornes, puisque une des particularités, ça, c'est quelque chose qui nous rapproche un petit peu du monde de la copropriété, c'est que nos parcs de stationnement, en fait, il en existe trois types. Vous avez le parc de stationnement en sous-sol privatif. Donc là, c'est relativement simple à gérer pour un bailleur ou un bailleur social, puisqu'il existe déjà des obligations. Dès que le locataire demande le raccordement, bon, ben là, le propriétaire réalise les travaux. Donc il est obligé aujourd'hui de choisir entre plusieurs technologies pour facturer et que la facturation puisse se faire entre le locataire et directement le fournisseur d'énergie. Ce qui aujourd'hui est plus compliqué pour nous, c'est le stationnement gratuit de surface. Et ça, en fait, on a des centaines de milliers de places aujourd'hui qui ne sont pas forcément d'ailleurs véritablement occupées, ou alors elles sont occupées un petit peu de manière anarchique. On n'a pas forcément tout résidentialisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès à ces parcs de stationnement, il est pour les locataires HLM, mais on sait très bien qu'en fonction de l'implantation de l'immeuble dans le quartier, on a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas nos locataires qui vont stationner sur ces parcs de stationnement en libre accès. Et donc, on imagine, si on doit transposer la recharge du véhicule électrique dans des espaces qui aujourd'hui sont ouverts, on voit que ça rencontre un certain nombre de difficultés de privatisation ou de résidentialisation d'espaces qui aujourd'hui sont ouverts au public pour permettre à nos locataires de pouvoir accéder à des bornes de recharge, on va dire, au moins un petit peu individualisées, même si elles sont, on va dire, partagées. Il faut pouvoir, sinon on va évidemment avoir tous les habitants du quartier qui vont venir se recharger sur ces bornes. Donc on a, depuis 2022, et notamment avec EDF, Enedis et l'AVEM, organisé plusieurs réunions régionales avec les bailleurs sociaux. On a aussi envoyé un questionnaire qui, pour l'instant, n'a pas réussi à avoir les effets escomptés. C'était, notamment, c'est ce que je disais, c'est les bailleurs sociaux sont assez attentistes hein, sur ce sujet. Et on est vraiment en train d'essayer de les remobiliser. Ça va être le gros sujet de l'année 2024, puisque entre le moment où on a commencé 2021-2022 et maintenant, on sent quand même que le marché du véhicule électrique a énormément évolué. Chaque publicité à la télé, de voir aujourd'hui une publicité d'un véhicule thermique, hein, je pense pas en avoir vu ces dernières semaines. C'est vraiment que du véhicule électrique ou du véhicule hybride rechargeable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ça va devenir un véritable sujet pour les bailleurs sociaux à intégrer dans leur stratégie bas carbone, puisque on a aujourd'hui, et c'est ce qu'on constate dans la façon dont les locataires s'équipent. Ils ne demandent d'ailleurs pas forcément systématiquement au bailleur social. On a un certain nombre de branchements pirates hein, qui existent sur les communs. Donc vous avez des véhicules aujourd'hui, à l'heure où je parle, hein. Il y a quelques véhicules dans la métropole qui se rechargent sur l'électricité des parties communes. Hein. C'est des choses qui arrivent. Donc bien évidemment, c'est un danger parce que ça pose évidemment des problèmes de sécurité et c'est un véritable problème. Donc aujourd'hui, on va être confronté et les bailleurs sociaux vont vraiment être confrontés à pouvoir réglementer, intervenir techniquement et juridiquement dans les espaces de...
Juste un complément, Robin, si tu peux revenir. Parce qu'on dirait qu'en 2023, on s'est endormi. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. Ça a été plutôt l'inverse. On a assuré une veille active sur toutes les questions éminemment techniques. Alors, Robin l'a souligné, hein, on a un appui d'expertise. Alors, notamment d'Enedis, hein. On a travaillé, et de l'AVEM, pardon, Sandrine, on a travaillé sur la question de la fiabilisation des données, qui restera un élément important dans notre feuille de route en 2024. Et je voulais quand même insister sur un point, parce que c'est un enjeu stratégique fort de notre feuille de route. Donc Robin et moi, on est ici en tribune sous les Sunlight, mais on a l'appui d'une chargée de mission, donc Larry Soutré, hein, qui est fortement mobilisée sur cette question. C'est une des thématiques sur lesquelles elle est fortement impliquée au sein de l'équipe opérationnelle.
Exactement. Et d'ailleurs, on a aussi paramétré ce poste, notamment grâce au dossier de la mobilité électrique, tant on a conscience que ça va venir bouleverser la façon dont le bailleur social doit contribuer à la mobilité de demain. Bon, on a quatre. Effectivement, c'est un peu petit. Je vais me retourner un peu. Donc, on a quatre sujets. La démocratisation. Là, on est complètement dedans. C'est-à-dire qu'on a vu aussi Lidl, hein, qui casse les prix. Et c'est vrai que je pense qu'un bon nombre de locataires du parc HLM vont chez ces messieurs de la grande distribution. Et c'est vrai qu'on voit que le prix du kilowattheure, même si on est face à une évolution significative du prix des énergies en France actuellement, qu'il est encore possible de pouvoir avoir de l'énergie, en tout cas de pouvoir parcourir des kilomètres à moindre coût par rapport à ce qui existe aujourd'hui au niveau du thermique. Et ça, c'est vrai que pour les locataires de notre parc, c'est un argument très important. Donc une démocratisation, et on le voit aujourd'hui dans... On a les incitations financières et réglementaires qui aujourd'hui interviennent. Le corollaire, c'est qu'on a une hausse des immatriculations. Alors, ça reste, de mon point de vue, alors on n'a pas les chiffres chez les locataires HLM, mais à mon avis, le taux d'équipement des véhicules électriques, il est certainement bien inférieur à ce qui peut se passer chez le privé. Mais par contre, on pense que c'est un marché qui va se développer peut-être avec un ou deux ans de décalage. Et une vague va certainement arriver. Donc la connaissance, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche à connaître la taille et la qualité du parc de stationnement. Alors c'est vrai que vous pourriez vous dire, mais comment ça se fait que les bailleurs sociaux ne connaissent pas leur parc de stationnement? En fait, c'est très simple. C'est la façon dont notre patrimoine s'est développé, parce qu'on a construit énormément dans les années 60 et 70. C'est vrai qu'à cette époque, on construisait un immeuble et on construisait un parc de stationnement devant, et on a beaucoup de places de stationnement qui sont gratuites, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc en fait, les bailleurs sociaux n'ont pas compté leurs places de parking, ça, c'est aussi bête que ça. Donc ils comptent évidemment les places de parking qui sont payantes, sous-sol, ou celles qui sont privatisées en surface parce qu'il y a un contrat de location. Par contre, tout le parc de stationnement, c'est-à-dire tout le potentiel de superficie, on va pouvoir mettre des bornes de recharge dans les années qui viennent, il s'agit de places non comptabilisées finalement dans le système informatique des bailleurs. Et donc, ce qui va nécessiter, si à un moment donné on va vers l'individualisation de la place de stationnement en surface avec une recharge, il faudra évidemment qu'on puisse l'identifier dans nos systèmes informatiques pour ensuite la facturer. Voilà. Et puis on a plein d'évolutions. C'est vrai que là, on voit que les bornes de recharge, est-ce qu'on pourra acheminer l'électricité partout en quantité suffisante pour recharger tous les véhicules des locataires? Donc là, on a un gros sujet de constitution de notre socle de connaissances chez les bailleurs sociaux. Ensuite, on passera à la mise en œuvre. Et là, c'est vrai que les bailleurs sociaux, je vous le disais, sont en attente. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de savoir quelles seront les technologies utilisées de demain, comment on va refacturer. Est-ce que les bailleurs sociaux vont aller vers une internalisation finalement de l'alimentation, ou est-ce que ça va être une composante du contrat de location, c'est-à-dire voilà, est-ce que je loue l'appartement avec l'électricité et du coup mon locataire peut recharger son véhicule en même temps qu'il paye son contrat finalement, ou est-ce qu'on laisse l'ensemble des opérateurs intervenir sur le parc des bailleurs sociaux et du coup facturer directement, parce qu'en fait on sait faire les deux, hein, c'est souvent... l'électricité, d'ailleurs, est en général facturée directement du concessionnaire au locataire sans que ça passe par la régularisation des charges du propriétaire, alors que l'eau, hein, faut savoir qu'on paye évidemment l'eau des locataires et ensuite on la récupère dans les charges. C'est vraiment deux modèles économiques et c'est pour ça qu'il y a des grandes options qui sont à prendre à l'échelle nationale. Est-ce que nous sommes acteurs de la mobilité électrique de nos locataires ou est-ce que finalement on est totalement passif et on laisse des opérateurs privés installer leur borne de recharge et en fait on n'intervient pas. La question, c'est de manière un petit peu plus large, c'est comment on fait en sorte que le locataire HLM ne soit pas mis à côté de la mobilité électrique de demain. Le véritable enjeu pour la profession, c'est celui-ci. Comment on fait en sorte que des personnes à revenus modestes soient en capacité de se déplacer, d'avoir une mobilité, d'avoir une empreinte carbone la plus faible possible et participer à la transition énergétique, même à faible moyen. Donc là, on a véritablement sur la mise en œuvre des sujets qui sont à trancher et qui ne sont pas tranchés aujourd'hui à l'échelle de la profession. Et on a tous les sujets, mais ça, vous avez dû en parler un petit peu avant avec la bidirectionnalité. Alors ça, c'est un véritable sujet de mon point de vue, les deux sujets qui sont au point 2 et au point 3. C'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer, si la technologie était au rendez-vous, de pouvoir faire en sorte que les véhicules rechargent en partie l'habitat si on était dans un système de bidirectionnalité, c'est-à-dire que j'utilise ma voiture, alors je l'ai chargée dans une entreprise, j'ai vu tout à l'heure, je suis arrivé à ce moment-là, chez mon employeur, j'ai rechargé ma voiture, je rentre chez moi et je me branche et ça participe à l'alimentation des parties communes et des parties privatives de l'ensemble immobilier. Donc là, c'est les employeurs qui payent l'électricité de locataire HLM. Alors nous, ça nous va très bien, on signe tout de suite si c'est ça. Mais c'est vrai que le sujet de la bidirectionnalité et du stockage sont des sujets très importants puisque, de notre point de vue, et ce qui pourra d'ailleurs à un moment donné conduire à une décision à l'échelle nationale sur la stratégie de comment on implante nos IRVE, si on peut stocker et qu'on peut rediriger vers l'habitat, là, effectivement, on rentre dans un cercle vertueux pour les bailleurs sociaux et la façon dont on peut avoir une énergie moins chère pour les locataires HLM. Donc on est vraiment sur un sujet très important à ce niveau-là. Je passe rapidement, donc là, ça c'est des diapos que vous connaissez, donc effectivement, ne pas laisser les locataires avec des vignettes 4 et 5, puisque c'est aujourd'hui certainement l'état du parc chez nos locataires. Et on voit, on a repris la courbe qui a dû être présentée peut-être plus tôt dans cette matinée, où on voit que le taux d'équipement va être en forte hausse, et on estime à 100 000 véhicules électriques dans le parc social d'ici 2032. Si on arrive à 100 000, il faut savoir qu'aujourd'hui, à tout casser, si on a 1 500 prises électriques, c'est bien. Il faudrait qu'on puisse en poser 30 par jour jusqu'en 2100 000 en 2032. Or, aujourd'hui, on n'est pas dans cette massification et dans cette intensification de poses d'IRVE parce qu'on a encore un certain nombre de sujets. Donc, on a vraiment à travailler sur ces sujets-là.
Il y avait une bulle qu'on aurait dû rajouter également, c'est toute la démocratisation de l'offre avec une offre de véhicules neufs et avec des tarifs qui commencent à devenir de plus en plus accessibles et ensuite l'ouverture d'un marché de l'occasion donc qui sera pour nos locataires évidemment plus attractif.
Oui, c'est vrai, je pense que bon, le marché de l'occasion, c'est nous, oui, je pense. Donc bon, ça, je passe rapidement. On est en plein dans un travaux avec les bailleurs sociaux pour les aider en tout cas à répondre, puisqu'ils sont aujourd'hui fortement sollicités par leurs locataires privatifs, hein, ceux qui ont soit le box, soit la place de stationnement privatisée. Disent bon bah alors, ça y est, je vais m'acheter une voiture électrique. Est-ce que vous pouvez me mettre une prise ? Bon, on voit bien qu'aujourd'hui la réponse est pas encore super cadrée de la part des bailleurs sociaux. Et on est en train de travailler avec Clarisse à l'accompagnement des bailleurs sociaux pour standardiser la réponse. On travaille, alors pour ceux qui connaissent un peu le monde du logement social, hein, donc on a effectivement la maison mère des HLM en France, c'est l'Union sociale pour l'habitat, et donc notamment sur le site internet. Alors pour ceux qui évidemment ne sont pas abonnés, vous n'y avez pas forcément accès, mais vous pouvez passer par l'association régionale HLM pour qu'on puisse à un moment donné vous donner un cahier repère qui a été produit par l'Union sociale pour l'habitat qui du coup commence à parler à l'échelle nationale, hein, donc au niveau national il y a 5 millions de logements HLM en France, donc évidemment un logeur d'une bonne partie de la population française, où la recharge à domicile, puisque c'est le thème de ce matin, va véritablement bouleverser les usages et les pratiques des bailleurs sociaux. C'est un nouveau métier, hein, qu'on va falloir qu'on forme aussi des collaborateurs à la mobilité électrique et à la façon dont on va intégrer la recharge au sein des parcs HLM. Ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, de l'interopérabilité, mais aussi d'adapter, mais aussi le mix énergétique, je disais. Hein. Certainement, à certains endroits du territoire, à deux dossiers à fusionner, celui du photovoltaïque ou du mix énergétique avec les IRVE. On a la chance d'être dans une région très ensoleillée et on peut avoir une partie de l'énergie des véhicules qui soit puisée directement. Et voilà. Donc à mon niveau, J'ai terminé.